l'actualité des idées aujourd'hui, la France est-elle toujours une nation scientifique? On en parle à l'occasion des 80 ans du CNRS, de la nouvelle édition aussi de la Fête de la Science 2019. État des lieux avec le directeur du CNRS, Antoine Petit, et l'historien des sciences, Denis Gutleben, attaché scientifique au comité pour l'histoire du CNRS, qui vient de diriger l'ouvrage « Science, bâtir de nouveaux mondes ». Bonjour messieurs, bonjour Antoine bonjour. Petit et bonjour à vous Denis Gutleben. Bonjour. Coup d'envoi aussi de la semaine des Nobel, demain physique, mercredi chimie, jeudi littérature, vendredi paix et lundi ce sera l'économie. Ce lundi donc aujourd'hui, le Nobel de médecine annoncé il y a un peu plus d'une heure à Stockholm. L'an passé, l'Académie suédoise avait récompensé James Allison et Tazuko Honjo pour leurs travaux sur l'immunothérapie. Cette année, à nouveau deux Américains et un Britannique récompensés pour leur découverte sur l'oxygénation des cellules. Les Nobel, c'est qu'un indicateur, certes Antoine Petit, c'est encore quand même souvent des chercheurs américains ou venant du monde anglo-saxon qui sont primés dans des catégories scientifiques. Pourquoi ? Ils ont des atouts que nous n'avons pas.
Oui, je pense que d'abord les Nobel, comme je l'ai dit, c'est un indicateur parmi beaucoup. Il est clair que c'est un très bel indicateur et je pense que tous les gens qui ont eu le prix Nobel le méritaient. Après, on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le prix Nobel et qui l'auraient mérité. C'est rare que vous puissiez identifier un, deux ou trois scientifiques qui seraient meilleurs que tous les autres. Donc on sait très bien que dans cette attribution des prix Nobel, il y a une partie de, non pas d'aléatoire, mais une partie de lobbying des institutions. Et on sait que les universités américaines et anglo-saxonnes sont plutôt meilleures que nous sur ce genre d'exercice.
Sur le lobbying, peut-être pas sur la recherche, mais sur le lobbying en tout cas. Denis Gutleben, sur la question des Nobel.
Écoutez, c'est vrai que là, les Nobel récents peut-être, en tout cas cette année, mais ces dernières années, je pense que la France peut quand même s'enorgueillir d'un certain nombre de bons résultats de ce côté-là, et puis notamment dans les disciplines scientifiques que vous évoquiez, en physique, Serge Haroche, en biologie, Jules Hoffmann, enfin récemment on a quand même eu de très belles réussites qu'il faut souligner.
Les Nobel, donc un indicateur, mais qui questionne aussi la place de la France dans cette compétition internationale, parce que la science, la recherche, c'en est une de compétition. Les Français feront-ils un jour ou l'autre course en tête? Ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent aujourd'hui s'appuyer sur un établissement, sur une institution qui fait notre force, le CNRS. Alors, quelle est la particularité de ce centre? 33 000 chercheurs, des ingénieurs et des techniciens, plus de 1 000 laboratoires en France et dans le monde. En quelques chiffres, c'est ça le CNRS, Antoine Petit ?
Absolument, c'est ça. Et puis il faut ajouter des partenariats très forts avec les universités et l'école. C'est une des spécificités du système de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation français. C'est le fait que depuis 80 ans, dans les laboratoires du CNRS, avec donc des guillemets autour de « du », il y a des enseignants-chercheurs, des maîtres de conférences, des professeurs. Et c'est ça la particularité française. Et ça fait une force de frappe dans les 1000 unités du CNRS que vous évoquiez. Ça fait une force de frappe de 120 000 personnes, ce qui est tout à fait considérable sur la scène internationale.
80 ans, ça veut dire une création en 1939, dans un monde tout juste en guerre. Qu'attend-on alors des scientifiques? Vous avez travaillé sur cette histoire de l'institution, de l'établissement Denis Gutleben. Qu'est-ce qu'on attend à ce moment-là? Pourquoi en 1939, on crée le CNRS?
Vous avez répondu en partie déjà à la question. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en 19 octobre 1939, c'est la date officielle de création, il s'agit de mobiliser les scientifiques en vue d'une guerre qui s'annonce, comme l'invasion de la Pologne vient de le montrer par l'armée allemande, une guerre qui s'annonce absolument totale et extrêmement meurtrière. Donc il faut mettre tous les moyens de la nation au service de cette mobilisation et les scientifiques ne font pas exception. Mais dans le même temps, les scientifiques attendent aussi quelque chose, c'est une organisation de la recherche dans notre pays qu'on estime alors en retard par rapport à d'autres pays. Et ils militent pour cela depuis de très nombreuses années, voire décennies, puisque ça remonte à la fin du 19e siècle. Beaucoup de gens se sont exprimés depuis Louis Pasteur sur cette question-là. Et il y a des avancées qui sont faites tout au long de la période avec un moment clé déterminant sur le chemin de la création du CNRS, c'est le Front populaire.
C'est-à-dire qu'en 39, en tout cas, quand le CNRS naît, le 19 octobre précisément, qu'est-ce qu'on va attendre des scientifiques? Quels sont les domaines, les disciplines qui sont le plus valorisées? Vous dites qu'ils vont participer, ou en tout cas, on attend des scientifiques qui participent aussi à l'effort de guerre.
Alors, pour la guerre, ce sont les physiciens dont on attend beaucoup de choses. Comme pour la guerre précédente, la Première Guerre mondiale, on attendait beaucoup des chimistes. Hein, et puis on a cette image de la guerre des gaz et donc de l'implication de la chimie dans la guerre. Pour la guerre suivante, ce sont davantage les physiciens qui vont se mobiliser autour de personnalités qu'on connaît très bien encore aujourd'hui, comme Frédéric Joliot-Curie, et puis ses travaux sur l'atome, la réaction en chaîne, hein, maîtrisée pour les réacteurs ou bien libérée pour en faire des bombes. Et puis il y a aussi tous ses travaux sur les radars, par exemple, puisque c'est un petit peu la création, la grande avancée scientifique de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment à la base une guerre de physiciens, comme en témoignent tous les événements qui se produiront par la suite.
Oui, vous citez un rédacteur du quotidien Paris Midi qui ose la comparaison entre le CNRS, la fondation de cet établissement, avec la constitution d'un nouveau régiment. Parmi les pères fondateurs, des savants appelant à sortir nos laboratoires de la misère, comme le médecin Claude Bernard ou Maurice Barrès aussi, parce qu'il y a un main dans la main entre les hommes politiques et les scientifiques, d'autres aussi qui appellent à consolider notre organisation scientifique comme Louis Pasteur ou encore le physicien Jean Perrin, récompensé d'un Nobel pour ses travaux sur la discontinuité de la matière. Une recherche scientifique désintéressée, c'est pourtant ce qui a prévalu aussi à la création du CNRS. On écoute Jean Perrin.
Je n'ai par conséquent pas à résumer ici l'histoire de cette découverte, ni celle de la noble vie de Marie Curie et de Pierre Curie. J'en veux simplement tirer un enseignement et vous montrer par leur exemple comment toute nouveauté vraiment utile à l'homme ne peut être obtenue que par la découverte des choses inconnues poursuivies sans aucune préoccupation utilitaire. Ce n'est pas en désirant lutter contre le cancer que Marie Curie et Pierre Curie ont fait leurs immortelles découvertes. Ainsi, en tout domaine, nous devons faciliter la recherche scientifique désintéressée.
L'esprit souffle où il veut, voilà ce que Jean Perrin avait coutume de dire. L'importance du hasard, de la recherche, d'une recherche désintéressée, c'est ce qu'il souligne dans ses mots. On est alors on est avant même la création du CNRS. Qu'est-ce que vous entendez dans ces termes-là, vous, Denis Gutleben?
C'est-à-dire l'esprit souffle où il veut, c'est-à-dire qu'il faut laisser la recherche la plus libre possible pour explorer les voies qu'elle souhaite suivre. Et en même temps, vous entendez bien dans cet enregistrement que la préoccupation pour un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, qui n'existait pas encore à l'époque, mais la préoccupation pour la valorisation du fruit des travaux de la recherche était déjà bel et bien présente dès la lointaine origine du CNRS. Et même bien plus tôt encore. Enfin, quand on regarde Pasteur, par exemple, Pasteur disait il n'y a pas de recherche appliquée. Il y a la science et les applications de la science liées entre elles comme le fruit à l'arbre qu'il a porté. Donc, dès ces périodes-là, que ça soit à la fin du 19e siècle avec Pasteur ou bien beaucoup plus proche de nous dans les années 30 avec Jean Perrin, il y avait une vraie préoccupation à la fois pour mener une recherche libre, mais en même temps parce qu'elle allait apporter des fruits économiques, sociaux, etc. au pays.
On entendait, Antoine Petit, tout à l'heure, le lien entre l'établissement, entre la recherche et la nation, avec sa création en 1939, ce qu'on attendait des scientifiques. Mais comment faire aussi pour préserver cette indépendance? Comment faire pour que cette institution, le CNRS, dans sa manière de naître, mais aussi de grandir et d'évoluer, reste ouverte aux quatre vents, c'est-à-dire que l'esprit puisse y souffler là où il veut, pour reprendre les mots de Jean Perrin?
Si vous voulez, je crois que ce qu'il faut faire, c'est faire confiance. C'est-à-dire que les scientifiques, qu'ils soient hommes ou femmes, sont des gens qui évaluent régulièrement leurs travaux et ils les évaluent à l'échelle internationale. Et ce qu'il faut, c'est être capable de financer les meilleures recherches au niveau international, parce que, comme on l'a dit, on ne sait pas quelles vont être les découvertes qui vont avoir des implications majeures dans les 10, 20 ou 30 ans à venir. Et donc, c'est essentiel de permettre cette liberté. Mais cette liberté ne veut pas dire que certaines équipes ne sont pas préoccupées par des sujets à plus court terme. On a tous en ce moment comme problématique un peu générale la question du changement climatique. Nous avons des équipes qui travaillent sur, bien sûr, les causes de ce changement climatique, mais aussi sur la proposition de solutions à moyen et court terme pour essayer de pallier les difficultés que ça engendre. Et donc, c'est tout ça qu'il faut laisser. Il faut laisser le temps long, parce que la recherche s'inscrit dans le temps long. Il faut laisser les gens, les meilleurs esprits, aller chercher dans des directions qui peuvent être incompréhensibles au départ, Mais il faut toujours rappeler qu'on n'a pas inventé l'électricité en essayant d'améliorer la bougie, par exemple. Et donc, il faut laisser cette possibilité aux meilleures chercheuses et aux meilleurs chercheurs d'aller explorer des nouveaux mondes. Mais il faut aussi, c'est normal, que la société qui paye d'une certaine façon pour cette recherche, hein, puisque nous sommes un organisme public, eh bien, nous puissions expliquer à la société la nature de ces recherches et en quoi certaines de ces recherches auront des implications à moyen ou court, voire parfois même court terme, si elles sont couronnées de succès.
Vos chercheurs, ils sont au service de qui, pour parler clairement ?
Je pense qu'ils sont avant tout, ce qui meut le chercheur ou la chercheuse, c'est avant tout l'avancée des connaissances. Mais si en plus cette avancée des connaissances peut avoir un impact sur la vie de son entourage, de son pays, de la planète, alors c'est une satisfaction qui est démultipliée.
Parce qu'on attend beaucoup d'eux, on va écouter les mots du Premier ministre Édouard Philippe au début de l'année, discours prononcé à l'occasion des 80 ans du CNRS.
Nous avons choisi d'investir dans la recherche parce qu'elle est un capital d'une certaine façon. On voit bien le crédit français à l'étranger que peut susciter notre capacité à investir dans la recherche. On présente souvent la France comme le quatrième pays au monde pour le nombre de Nobel reçus, le deuxième pour les médailles Fields, le septième en termes de publication. Je cite ces chiffres, ils sont à l'honneur de la recherche française depuis longtemps. Je ne crois pas qu'ils résument les enjeux d'une certaine façon. Mais nous voyons bien, quand par exemple nous discutons de la capacité de notre pays à devenir de plus en plus attractif, nous voyons bien que la recherche et l'innovation sont en tête des atouts cités par les dirigeants mondiaux d'entreprises dans tous les baromètres qui existent sur l'attractivité de la France. La compétition mondiale pour l'innovation, pour la recherche, pour l'intelligence d'une certaine façon, elle ne va pas faiblir. Tout indique qu'elle va être de plus en plus forte, de plus en plus intense.
Voilà, être attractif, cette compétition mondiale, cette compétition internationale, est-ce qu'elle affaiblit à vos yeux la recherche, Antoine Petit, par la course, le rythme qu'elle impose aussi, la quête de résultats, ou est-ce qu'elle la stimule ?
Je pense qu'avant tout, elle la stimule. On utilise beaucoup dans la recherche un mot un peu bizarre qui est la coopétition, qui veut bien dire que c'est à la fois un monde de coopération et de compétition. Les meilleures chercheuses et les meilleurs chercheurs ont besoin de se confronter à leurs pairs pour avancer. Donc c'est l'aspect coopération, mais c'est vrai aussi que chacun a envie d'être le premier à publier. Et donc c'est cette dimension de compétition qui existe entre les laboratoires, qui existe entre les pays, et qu'il faut accepter, ça fait partie de la règle du jeu. Ce à quoi il faut faire attention, bien entendu, c'est que cette compétition, elle ne soit pas exacerbée et qu'elle se fasse à l'encontre des règles de déontologie scientifique, auquel cas, là, bien entendu, il y a danger. Mais j'ai envie de dire, de tout temps, la compétition entre les chercheuses et les chercheurs a été un des moteurs de la recherche scientifique.
Parce qu'il y a des dérives, et vous les avez actées dès votre arrivée à la tête du CNRS, Antoine Petit. Cette idée ou cet appel à produire de plus en plus, à publier de plus en plus, à une vitesse de plus en plus soutenue là encore, là où la recherche a parfois besoin aussi de sérénité et de temps long, la falsification de données, la fraude scientifique, à votre arrivée, vous avez mis en place un plan d'action suite à plusieurs affaires touchant le CNRS et promis que l'institution serait désormais impitoyable avec les tricheurs. Comment faites-vous pour réguler cette situation ?
Alors, d'abord, il faut dire que ce serait un miracle si on était la seule frange de la population dans laquelle il n'y ait pas de tricheurs ou de tricheuses. Il faudrait qu'on brevette cette invention et on aurait la plus belle invention du CNRS de tous les temps. Donc il y a un tout petit nombre, vraiment très faible, de gens qui peuvent tricher. Et oui, il faut être impitoyable parce que la confiance de la société en la science, hein, dont on va probablement parler, elle est liée au fait que la société considère que nous savons détecter les quelques tricheurs qu'il peut y avoir et que nous les écartons de la démarche scientifique. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Donc, nous avons effectivement un référent intégrité scientifique et toute personne peut solliciter ce référent intégrité scientifique en disant j'ai des interrogations sur telle ou telle publication. Ensuite, il y a une enquête qui est faite et ça arrive rarement, mais ça arrive, lorsqu'il s'avère que la chercheuse ou le chercheur impliqué ou l'équipe impliquée a triché, alors elle est sanctionnée et elle est sanctionnée, encore une fois, à la hauteur de la gravité des faits.
Les conséquences, c'est de la fraude, hein, c'est la défiance. Et les causes, pour vous, Denis Gutleben?
Les causes, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a vraiment une cause? Elles doivent être liées aussi à la personnalité qui se lance dans cette fraude-là, puisqu'on retrouve à toutes les époques aussi des cas de fraude scientifique, de méconduite, comme on peut dire aujourd'hui. Et il n'y a pas de grande règle générale dans ces cas-là.
Alors, non, mais il y a quand même un écosystème aujourd'hui.
Il y a un écosystème, mais c'est pareil, si vous voulez me faire dire que c'est parce qu'il y a compétition et donc une tension, c'est vrai que ça a été le cas depuis très longtemps. Enfin, vous parlez de la période de la création du CNRS, quand vous regardez les travaux sur les atomes à cette époque-là, on se tirait la bourre déjà entre la France et l'Allemagne pour publier le plus rapidement possible et pour être à la pointe de cette recherche. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'aujourd'hui c'est exacerbé, mais quelle que soit la période que vous constatez, que vous observez, eh bien, on retrouve la même situation.
Vous avez souligné comme étant l'une des causes, Antoine Petit, l'indexation des performances des chercheurs sur des paramètres chiffrés. On entendait dans les mots du Premier ministre à l'instant, dans ce discours tenu au début de l'année, des termes comme compétitivité, attractivité, presque rentabilité. On est dans un vocable, même un lexique, qui est très très différent de celui de Jean Perrin en 1930, qui appuyait et insistait sur un idéal quand même de la recherche. Hein.
Alors je pense qu'il y a plusieurs éléments. L'attractivité, et la France reste un pays très attractif. Le CNRS recrute chaque année plus du quart de ses chercheuses et chercheurs permanents en dehors de France, qui prouve bien l'attractivité de notre pays. Ça, c'est une bonne chose.
Il y en a quand même quelques-uns qui s'en vont aussi.
Et heureusement, et c'est très bien. Le fait qu'il y ait de la mobilité, on ne pourrait pas espérer qu'on accueille des chercheuses et des chercheurs étrangers et qu'à l'inverse, il n'y ait pas quelques Français qui aillent porter la bonne parole à l'extérieur. Je pense que c'est la mobilité internationale et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait souhaitable. Après, oui, la compétition existe. Je crois qu'encore une fois, il y a toujours eu des cas de méconduite scientifique. Et moi, ce qui me rassure, c'est un récent sondage qui a été organisé par le ministère en charge de la recherche, enfin commandé par le ministère en charge de la recherche à l'occasion de la récente fête de la science que vous évoquez et qui dit que plus de 90% des Français ont confiance en la science et en les scientifiques. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de professions qui puissent arriver à ce taux-là. Et ça prouve bien que les gens ne sont pas dupes. Il y a quelques cas, comme j'ai envie de dire en sport, il est arrivé qu'il y ait quelques cas de gens qui se dopent et qui soient des tricheurs. Je crois que l'immense majorité des chercheurs, le système d'autocontrôle, si vous voulez, est trop fort pour que l'immense majorité des chercheurs ne soient pas des gens de très bonne foi, avant tout mus par l'avancée des connaissances, encore une fois, et le plaisir de trouver.
La France est-elle toujours une nation scientifique et s'en donne-t-elle les moyens? Avec nous jusqu'à 13h30, le président directeur du CNRS, Antoine Petit, et l'historien Denis Gutleben, qui vient de diriger Science, bâtir de nouveaux mondes, une histoire du CNRS et de ses découvertes. France Culture, il est 13h15.
France Culture, la grande table, Olivia Jasbert.
Au fil des années, et c'est ce qu'on découvre dans ce riche ouvrage que vous avez dirigé, Denis Gutleben, au fil des années, de nouvelles disciplines se sont créées au CNRS. Vous revenez dans ce livre sur quelques-unes des grandes découvertes de ces 80 dernières années. Qu'est-ce que le CNRS apporte à chaque époque ?
Alors, il apporte institutionnellement... Déjà, je voudrais préciser que je ne suis pas le seul auteur de cet ouvrage.
C'est dit dirigé.
Voilà, un ouvrage collectif. Donc, toutes les découvertes qui sont abordées sont aussi traitées par un certain nombre de collègues qui sont à chaque fois spécialistes de chacun des domaines traités. Il apporte déjà une mobilisation autour de la recherche dans notre pays, à chaque époque, et puis une certaine concentration autour de ce grand enjeu scientifique, hein, à travers les périodes. Et d'ailleurs, c'est un lien intéressant. Enfin, quand on vous avait diffusé tout à l'heure le discours du Premier ministre, c'est aussi assez intéressant de constater le lien extrêmement étroit qu'il y a entre, à toutes ces périodes qui sont traitées dans l'ouvrage ou d'autres encore, qu'il y a entre la science et le politique, qui témoigne, pour recouper encore une autre partie du débat de tout à l'heure, que en fait la recherche c'est pas hors sol, c'est pas une tour d'ivoire, qu'il y a des liens vraiment très très étroits avec la société qui l'environne, et que la recherche d'ailleurs se porte jamais aussi bien que quand elle est emmenée par une grande volonté, une grande ambition nationale et politique qui la promeut. scientifiquement, évidemment, là, on pourrait faire un catalogue. Il aurait fallu d'ailleurs faire une encyclopédie plutôt qu'un seul ouvrage si l'on voulait parler de toutes les grandes avancées dans lesquelles le CNRS a été impliqué depuis 80 ans. Il ne peut pas toutes les revendiquer, mais en tout cas, il peut revendiquer une participation à la plupart d'entre elles. Enfin, dès ces années ces premières années, dès la libération, c'est par exemple la possibilité de faire venir la génétique dans notre pays, les recherches en génétique qui pendant longtemps étaient très en retard en France et notamment par rapport aux pays anglo-saxons qui n'arrivaient pas à percer pour diverses raisons à l'université. C'est grâce au CNRS, grâce à ce nouvel établissement, en fait, qu'elles ont pu enfin arriver, cette génétique mendélienne, dans notre pays. Et après, on voit aussi, quelle que soit la période, les années 60-70, par exemple dans les années 70, ce sont les recherches sur l'environnement que le CNRS a permis de mobiliser à ce moment-là autour de premiers programmes de recherche sur ce thème. Donc on peut vraiment citer une quantité absolument considérable d'exemples d'avancées permises par l'établissement, et avec ses partenaires toujours.
Et notamment l'étude de l'océan, les atomes, la question de la transition énergétique, l'informatique qui va entrer aussi au CNRS. Vous avez plus particulièrement étudié, vous, Denis Gutleben, l'ingénierie. Mmh. L'ingénierie, cette science, cet art, quelle particularité dans cette discipline à la française?
Alors c'est une science très très ancienne, hein, très 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 ancienne. Il y a des laboratoires qui pratiquent les sciences de l'ingénieur bien avant la création du CNRS. La force de l'établissement à partir des années 70, à la fois c'est de créer de grands laboratoires qui ont aujourd'hui encore une visibilité phénoménale au niveau national ou international, comme le LAS à Toulouse, mais c'est aussi de fédérer toutes ces forces et de les regrouper dans un secteur, un domaine qui est lié à tous les autres au sein de l'établissement. C'est une des forces aussi du CNRS de regrouper toutes les disciplines et donc de permettre leur fertilisation croisée.
Antoine Petit, il y a des découvertes dont vous êtes particulièrement fier aujourd'hui?
Votre question est difficile parce que si j'en cite une, dès la sortie du studio, je vais avoir une avalanche de SMS sur lequel, avec tous les autres que j'aurais pas cités.
Elle a 40 ans comme découverte, ce sera pas de votre fait.
Par ailleurs, je pense que c'est important de bien raconter aux auditeurs que finalement la recherche c'est quelque chose de continu, c'est-à-dire que c'est rare d'avoir le truc extraordinaire qui va faire la une des journaux. Je pense que la recherche c'est un labeur quotidien où vous allez améliorer les procédés, vous allez améliorer les algorithmes, vous allez faire des petites découvertes et que c'est mis bout à bout que ces petites découvertes à un moment arrivent à quelque chose d'extraordinaire. Et donc je crois qu'aujourd'hui, que ça soit dans le domaine de la physique, dans le domaine des maths, vous avez parlé des médailles Fields tout à l'heure, on a parlé des prix Nobel, on aurait pu parler d'économie et du prix Nobel de Jean Tirole, enfin, on aurait pu parler des travaux en sciences humaines et sociales qui sont extrêmement importants au CNRS. Je pense que c'est plus ça la recherche, c'est que chacun d'une certaine façon apporte sa pierre. Et puis qu'à un moment, l'ensemble des pierres fait qu'on a une découverte qui marque un petit peu le monde. Mais il ne faut pas croire que d'un seul coup, il y aurait un génie qui découvrirait tout seul. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la science.
Voilà, alors sur la question de la transition énergétique et du changement climatique, on retrouve quelques grandes avancées dans cet ouvrage. 75, le programme interdisciplinaire de recherche pour le développement de l'énergie solaire. 82, un programme sur les sciences pour l'énergie et les matières premières. 93, le programme Ecotech sur les technologies sobres et propres. Et puis 2010, la cellule Énergie mise en place au CNRS avec pour vocation de coordonner toutes les actions qui y sont développées. Vous insistez, vous, beaucoup sur le devoir d'approche transdisciplinaire du CNRS sur cette question du changement climatique. On peut donner quand même comme exemple les résultats publiés en 87 par Claude Lorius et Jean Jouzel, qui était notre invité récemment et qui vont marquer un tournant en montrant pour la première fois que le climat est lié à la concentration dans l'atmosphère, de l'atmosphère en gaz à effet de serre. Ils sont tous les deux médailles d'or du CNRS, par ailleurs, obtenues en 2002. Quels sont sur cette question, celle du changement climatique, les enjeux auxquels le CNRS doit faire face, les nouveaux défis? Parce que tel que vous le présentez dans cet ouvrage, il y a l'idée de comprendre, étudier, comprendre et agir, point d'exclamation. C'est-à-dire qu'on attend quand même des résultats rapidement, une réponse dans l'urgence. Antoine Petit.
Alors je crois qu'aujourd'hui, effectivement, ça fait partie des attentes vis-à-vis des chercheurs. C'est-à-dire que comprendre les phénomènes, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Aujourd'hui, il n'y a plus de polémique, il n'y a plus de climato-sceptiques, en tout cas les gens raisonnables, il n'y en a plus des climato-sceptiques. Rappelons-nous que même lorsque Laurius et Jouzel ont eu leur prix Nobel, c'était loin d'être le cas. Donc ça prouve qu'on a fait des progrès. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend aussi de la part de la science des propositions d'action. Je dis bien des propositions d'action. Je pense que c'est important de bien faire la distinction entre les scientifiques qui sont là pour aider à la décision publique et les politiques dont c'est le rôle de décider. Et aujourd'hui, c'est vrai que les recherches que nous conduisons au CNRS sont vraiment ces deux volets complémentaires. C'est de mieux comprendre et ensuite de proposer des pistes d'action qui ensuite, encore une fois, relèvent de décisions qui sont de nature politique. Et pour revenir sur cette approche pluridisciplinaire que vous évoquiez, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que ces grandes problématiques comme le changement climatique, on aurait pu parler de l'intelligence artificielle ou des énergies renouvelables ou des océans, nécessitent, pour être bien appréhendées, ces approches pluridisciplinaires avec à la fois des spécialistes des sciences dites dures, les mathématiques, la chimie, la physique, etc. Et aussi des spécialistes de sciences humaines et sociales. Et c'est ça, aujourd'hui, une des forces du CNRS, c'est d'avoir en son sein l'ensemble des spécialistes de ces disciplines, et c'est en les faisant travailler vraiment ensemble qu'on peut espérer faire des propositions d'action qui soient pas des actions théoriques, mais qui soient des actions acceptables pour la société. Et c'est ça, aujourd'hui, aussi le rôle du CNRS.
Vous insistez beaucoup sur l'importance d'une action en deux étapes, la recherche et la décision politique ensuite. Justement, est-ce que la parole des chercheurs est suffisamment entendue? Comment éclaire-t-elle la prise de décision politique? On va écouter les mots du journaliste au Monde, Stéphane Foucard.
Les émanations du diesel, on sait depuis la fin des années 50, de manière à peu près certaine, qu'elles contiennent des éléments qui sont cancérogènes. Elles ont été officiellement classées plus d'un demi-siècle plus tard par l'OMS comme des cancérogènes certains pour l'homme. Et pourtant, il n'y a toujours pas d'action publique à la hauteur de l'enjeu. Ça ne veut pas dire que l'expertise a toujours été défaillante ou que les experts des organismes de recherche publique qui ont été commis au fil des années pour réfléchir à ces questions ont menti, ont tordu la réalité, etc. Mais plutôt, en l'espèce, que ce qu'ils ont dit n'a pas été écouté. Et la meilleure preuve, c'est qu'en 1997, une expertise collective a été commandée par le CNRS à toute une palanquée de chercheurs de diverses disciplines sur le sujet, et qu'il y avait déjà à l'époque, en 1997, des études épidémiologiques qui montrait qu'il y avait un signal, il y avait quelque chose avec le cancer du poumon notamment, et ce rapport a été consciencieusement enterré, c'est-à-dire qu'on n'en retrouve même plus de copies dans les bibliothèques universitaires et académiques, et il a fallu aller le rechercher, enfin bref, je passe les détails, mais bref, en tout cas voilà, l'expertise était là, mais en fait elle a été simplement mise sous le tapis.
Voilà, là c'est sur l'exemple du diesel, il y en aurait beaucoup d'autres de ces expertises mises sous le tapis ou qui restent dans un tiroir de Denis Gutleben, Antoine Petit.
Je crois d'abord cette notion d'expertise collective. Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel parce que chaque chercheuse ou chaque chercheur individuellement est aussi un citoyen et donc peut avoir des intérêts qui peuvent être divers. L'expertise collective est de nature à gommer ces petites potentielles défaillances. Après, je pense qu'il faut aussi voir les choses du bon côté. Tout à l'heure, on a parlé du climat. Aujourd'hui, l'expertise collective, elle n'a pas été acceptée tout de suite, hein, on l'a rappelé, mais aujourd'hui, elle est acceptée. Maintenant, il est vrai que parfois, l'expertise scientifique n'est pas prise en compte. Si je dis c'est normal, peut-être que vous avez trouvé que je vais trop loin, mais encore une fois, je crois que c'est important de pas demander aux scientifiques de prendre les décisions politiques. C'est pas leur travail. On n'est pas dans les mêmes constantes de temps. La recherche souvent demande beaucoup de temps pour pouvoir être affirmative, et elle l'est même rarement, alors que la décision politique, elle doit être beaucoup plus rapide. Et on le voit bien sur ce qui s'est passé, par exemple, à Rouen. On attend du scientifique qu'il soit capable d'apporter quasiment des solutions immédiates ou des réponses immédiates. Le scientifique ou la scientifique, eh bien, c'est extrêmement rare, pour pas dire que c'est jamais qu'elle est capable de faire ce genre de réponse. Pour autant, elle doit apporter cette expertise, et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'aide à la décision publique.
On en attend même plus encore, et vous avez raison, on l'a vu encore récemment à Rouen, au lendemain de l'incendie de l'usine Lubrizol, la crainte d'une contamination. Nous ne voulons pas être rassurés, nous voulons être informés, disaient les habitants en écoute.
Ils disent que c'est pas toxique, mais on n'y croit pas trop, franchement. D'ailleurs, de pourquoi le ministre est venu, pour dire ouais, ça craint pas, on est sur place, mais non, bien sûr, ça nous inquiète. Et même le jeune, tout le monde vous le dira en fait. Et c'est pas pour rien qu'ils ont fermé les écoles, qu'ils ont fermé les routes. S'il n'y avait pas de risque, je pense pas qu'ils fermeraient tous les commerces ou ils fermeraient les écoles. Donc il y a des questions à poser pour ça.
On voit que c'est un grand nuage noir, donc on imagine quand même que ça doit être toxique, même si on nous dit que tout va bien, sachant que j'ai un petit bébé à la maison, donc Voilà, j'étais inquiète pour ça. On a des doutes, sachant que c'est un site Céveso et que des fumées très noires sont, pour moi, forcément toxiques. On est très inquiets.
Moi, je veux des réponses, je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, si on peut boire l'eau du robinet, si on peut pas la boire.
On veut la vérité ! On veut la vérité !
Le préfet dit ce qu'il veut. Les carburants qu'il y avait là-dedans, c'est quand même toxique.
C'est pas toxique, pour faire bien devant tout le monde, on verra ça dans la couple d'années. C'est tout, hein.
Et qu'est-ce qui prouve pas dans 10 ans je serai malade des poumons à cause de ce qu'on a respiré hier? Personne ne le prouve.
On ne sait pas exactement ce qui est retombé. Ce que l'on sait, d'où le classement Céveso seuil haut, c'est que cet établissement contient des produits dangereux, voire nocifs.
Alors, dans le doute, une attente légitime de vérité. Vous dites qu'il n'y a pas une vérité. Il y a une vérité scientifique comme il y a une vérité judiciaire. Mais alors, comment faire pour s'y retrouver?
Alors, c'est pas tout à fait ce que je dis. Je pense qu'en science, il y a des choses que l'on sait. On sait que la Terre tourne autour du Soleil et pas le contraire. Par exemple, ça, on le sait aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Et à la fois, je peux comprendre en tant que citoyen, c'est que les gens, on les entend, on veut la vérité. Mais je pense qu'aujourd'hui, personne, et c'est pas un problème de mauvaise volonté, personne n'est capable de donner la vérité. Dans l'acception que les gens aimeraient l'avoir. Ce qu'il faut expliquer, c'est expliquer ce qu'on sait. Ça, c'est normal, mais il faut aussi expliquer ce qu'on ne sait pas. Et je pense qu'il faut prendre les citoyens, les citoyennes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens intelligents et qui peuvent comprendre qu'on ne sait pas tout de suite, que heureusement une catastrophe comme celle qui s'est passée à Rouen, c'est exceptionnel, et que donc aucun scientifique n'avait étudié auparavant en détail, n'avait modélisé une telle catastrophe. Et donc je pense qu'il faut se donner les moyens d'apporter les réponses que les gens très naturellement attendent. Et je pense qu'il faut faire ni du catastrophisme, ni de l'angélisme, et encore une fois, être capable d'expliquer aux gens que dans une situation comme celle-là, il y a des choses qu'on sait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas.
Mais c'est grave à vos yeux, à tous les deux, cette montée de la défiance, cette crise de la culture scientifique aussi qu'on peut avoir aujourd'hui?
Déjà, enfin, pour réagir à ça, il ne faut pas mettre d'un côté les Rouennais et les scientifiques de l'autre. On a des collègues qui habitent Rouen qui se posent certainement les mêmes questions que les personnes qu'on vient d'entendre. Donc voilà, il n'y a pas deux entités complètement séparées, une qui éclaire l'autre, etc. Maintenant, cette crise de défiance, évidemment, c'est toujours grave de remettre en question des vérités qui sont validées depuis un certain nombre d'années, voire de décennies. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. C'est quelque chose qui est très fortement ancré depuis les années 70, depuis beaucoup de questionnements sur la place de la science dans la société. Et malheureusement ou heureusement, notre seul travail, c'est justement de continuer à faire avancer les connaissances et à les diffuser dans la société.
Et ça passera notamment par un rapprochement du monde de la recherche et de celui de l'enseignement. C'est là-dessus que vous travaillez, Antoine Petit, aussi, avec le lancement la semaine dernière de l'année des mathématiques. Les mathématiques seront au cœur donc de ce rapprochement.
Alors, c'est vrai que nous avons inauguré l'année des mathématiques avec le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Nous avions fait une année de la chimie et je pense que cet aspect éducation est absolument essentiel. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, c'est nécessaire que les scientifiques passent du temps à aller rencontrer les citoyens, rencontrer les décideurs, encore une fois, pour leur expliquer ce qu'on sait. Mais aussi leur expliquer ce qu'on ne sait pas. Et je pense que tout le monde peut comprendre que la science est quelque chose de vivant. Heureusement qu'on ne sait pas tout, sinon il n'y aurait plus de métier, il n'y aurait plus de travail pour nous les scientifiques. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Et c'est ça aussi qu'il faut expliquer. Et c'est normal, encore une fois, d'avoir ces espaces de confrontation où les citoyens peuvent poser des questions.
Cet appétit de connaissance et de savoir, ceux qui nous écoutent pourront aussi le remplir, le combler en partie avec cette nouvelle édition de la Fête de la Science 2019 qui vient de commencer. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle, Denis Gutleben, le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé avec plein de contributions, Science, bâtir de nouveaux mondes, c'est au CNRS édition. Bien sûr, joyeux anniversaire à vous, Antoine Petit, et à tous les chers qui travaille au cœur de cette institution qu'est le CNRS. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table aussi, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez qui ont programmé et préparé cette Grande Table des idées, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture avec l'aide très précieuse de François Bréus et de Sophie Marty. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Adèle Caglar et à la vidéo, Jordan Fuentes. Très bel après-midi à tous sur France Culture, bien sûr.